Chapitre 5. En recevant la lettre de Lucile, Gaston fit ce que tout homme aurait fait à sa place. Il baisa 1000 fois la signature et partit en poste pour Paris. La fortune, qui s'amuse de nous presque autant qu'une petite fille de ses poupées, le fit entrer à l'hôtel d'Outreville un mardi soir, 2 semaines jour pour jour après son mariage. Avec un peu de bonne volonté, il pouvait s'imaginer que la première quinzaine de juin avait été un mauvais rêve et qu'il s'éveillait, moulé de fatigue, aux côtés de sa femme. Pour cette fois, sa résolution était bien prise. Il s'était armé de courage contre le despotisme maternel de Madame Benoît et se jurait à lui-même de défendre son bien jusqu'à l'extrémité. Il n'avait pas encore ouvert la portière que Julie entrait en criant chez Madame Benoît « Madame, Madame, Monsieur le Marquis !» La veuve, qui ne savait pas que sa fille eût écrit à Arlange, crut avoir parti gagner. Elle répondit avec une joie mal contenue « Il n'y a pas de quoi crier, je l'attendais. Oh, je ne savais pas, madame, et à cause de ce qui s'est passé il y a 15 jours, je croyais que madame serait bien aise d'être avertie. Madame y est donc pour monsieur le marquis. Mais certainement, allez, courez. De quoi vous mêlez-vous ?
Pardon, madame, c'est qu'on dérange les mâles de monsieur le marquis. Est-ce qu'il va demeurer à l'hôtel ?
Mais où voulez-vous qu'il demeure ? Allez, prendre soin de ses bagages.
Pardon, madame, mais où faudra-t-il les porter ?
Oh, sotte que vous êtes, mais dans la chambre de la marquise. Est-ce que la place d'un mari n'est pas auprès de sa femme ? Gaston entra tout poudreux chez sa belle-mère, et son premier coup d'œil chercha Lucie absente. Madame Benoît, plus prévenante qu'au meilleur jour, répondit à ce regard.
Oh, vous cherchez Lucile ? Elle dîne chez une amie, mais il est tard, vous la verrez avant 1 heure.
Enfin, vous voici donc. Embrassez-moi, mon gendre, je vous pardonne.
Ma foi, mon aimable mère, vous me volez le premier mot que je voulais vous dire. Que tous vos torts soient effacés par ce baiser.
Oh, mais si j'ai des torts, vous les avez justifiés d'avance par cette incroyable manie dont vous êtes enfin corrigé. Vouloir vivre avec les loups à votre âge, avouez que c'était de l'aveuglement, et rendez grâce à celle qui vous a éclairé. N'êtes-vous pas mieux ici que partout ailleurs ? Et peut-on vivre une vie humaine hors de Paris ?
Ah, pardon, madame, mais je ne suis pas venu à Paris pour y vivre.
Et pourquoi donc faire pour y mourir ?
Oh, je n'y resterai pas assez longtemps pour que la nostalgie m'emporte. Je suis venu à Paris pour chercher ma femme et faire une visite indispensable.
Vous comptez ramener ma fille à Arlange ?
Oui, le plus tôt qu'il me sera possible.
Et elle vous accompagnera dans ce terrier ?
Ben, il me semble qu'elle le doit.
Et lui commanderez-vous de vous suivre de par la loi ? Et votre amour se fera-t-il escorter de 2 gendarmes ?
Non, madame, je renoncerais à mes droits s'il fallait les réclamer devant les tribunaux, mais nous n'en sommes pas là. Lucie me suivra par amour.
Par amour de vous, l'Arlange,
de l'un et de l'autre, de la forge et du forgeron.
Vous en êtes sûr ?
Oh, sans fatuité, oui.
Mais nous verrons bien. Et peut-on savoir quelle est cette visite indispensable ? Que partage avec ma fille l'honneur de vous attirer à Paris ?
Oh, ne vous faites point d'illusions. C'est une visite où vous ne pouvez pas venir avec moi.
Et chez quel mortel privilégié ?
Le ministre de l'Intérieur.
Le ministre ? À quel propos ? Y songez-vous ? Oh, si on le savait !
On le saura. Il importe aux intérêts de la forge que je siège au Conseil général. Une vacance se présente et je veux prier le ministre de m'agréer comme candidat.
Même malheureux, vous allez me brouiller avec tout notre parti.
On ne se brouille qu'avec les gens que l'on connaît. Si vous m'aviez interrogé sur mes opinions politiques, je vous aurais répondu que je ne suis pas un homme d'opposition.
D'ailleurs, il me semble que nous autres grands propriétaires, nous n'avons pas lieu de nous plaindre, on ne fait rien que pour nous. Vous avez bien dit ce mot, nous autres grands propriétaires. On croirait sur ma parole que vous l'avez été toute votre vie. Comment donc, madame, et je le suis de père en fils depuis 900 ans? Est-ce que vous en connaissez beaucoup de plus vieilles dates? Si nous jouons sur les mots, nous pourrons parler longtemps sans nous entendre. Écoutez, il vous plaît de briguer des honneurs de province, soit. Cependant, la forge a bien marché depuis 15 ans, quoique je n'ai jamais siégé au Conseil général. Vous voulez vous présenter comme candidat ministériel? Je crois que vous auriez mieux fait demander les voix de nos amis, qui sont nombreux, riches et influents. Cependant, je passerai encore là-dessus. Voyez si je suis clémente. Je viens de remporter une victoire sur vous. Je vous ai forcé de venir à Paris, sur mon terrain. Oui, mais dans ma maison. C'est juste. Oh, vous étiez né propriétaire, vous avez bientôt pris racine. Malgré tout, vous êtes venu ici parce que je vous y ai forcé. C'est une défaite, mais je ne prétends pas en tirer avantage. Allez, voulez-vous signer la paix? Oh, dès demain, si vous êtes raisonnable. Je le serai. Vous aimez Arlange. Il vous tarde d'y retourner. Vous ne voulez pas y vivre sans votre femme, ce qui est fort naturel. Je vous rendrai Lucile pour que vous l'emmeniez à la forge. C'est tout ce que je demande. Signons. Attendez. De mon côté, j'aime Paris comme vous aimez la forge, et le faubourg comme vous aimez Lucile. Si je n'entre pas une bonne fois dans le grand monde, je suis une femme morte. Vous coûterait-il beaucoup, pendant que vous êtes ici, tout porté, de présenter votre femme et moi dans 8 ou 10 maisons de vos amis, et de nous montrer un petit coin de ce paradis terrestre dont j'ai toujours été exclu par le péché originel. Oui, cela me coûterait beaucoup et ne vous en servirait de rien. Je ne vous répéterai pas que j'ai contre le faubourg une vieille rancune qui me défend absolument d'y remettre les pieds. Vous croyez avoir assez de droits sur moi pour réclamer l'oubli de mes répugnances et le sacrifice de mon amour-propre. Mais pouvez-vous exiger que j'expose pour vous tout l'avenir de Lucille? Je lui réserve, loin de Paris, un bonheur modeste, égal, sans éclat, sans bruit, et d'une riante uniformité. Nous avons, si Dieu nous prête vie, 30 ou 40 ans à passer ensemble, dans un horizon étroit mais charmant, sans autres événements que la naissance et le mariage de nos enfants. Un tel bonheur suffit à son ambition, elle me l'a dit. Qui m'assure que la vue d'un pays où tout est parade et vanité ne lui tournera pas la tête? Que ses yeux éblouis par l'éclat des lustres et des girandoles pourront s'accoutumer à la douce lumière de la lampe qui doit éclairer tous nos soirs? Que ses oreilles assourdies par le fracas du monde sauront toujours entendre les voix de nos forêts et la mienne? En ce moment, elle est encore la Lucile d'autrefois. Elle s'ennuie mortellement à Paris. Mais qu'en savez-vous? Oh, j'en suis sûr. Mais je ne sais pas si dans 6 mois elle penserait comme aujourd'hui. Il ne faut qu'un bal pour changer le cœur d'une jeune femme. Et 10 minutes de valse peuvent causer plus de bouleversements qu'un tremblement de terre. Vous croyez? Eh bien, soit, Lucile est à vous. Gouvernez-la comme vous l'entendrez. Mais moi, écoutez bien ceci. Ceci est mon ultimatum. Et si vous le repoussez, je romps les conférences. Qui vous empêcherait de me présenter, je ne dis pas dans tout le faubourg, mais dans 5 ou 6 maisons de votre connaissance? Mais ça, ma femme. Croyez-moi, ma chère madame Benoît, attachons-nous chacun une pierre au cou, et jetons-nous ensemble à la rivière, cela sera tout aussi sage. Toute l'aristocratie vous connaît comme elle a connu votre père. On sait votre ambition persévérante. Vous êtes déjà la femme du faubourg. C'est le baron qui me l'a écrit. et son témoignage n'est pas récusable. On dit que vous avez acheté de vos millions le plaisir de naviguer dans le monde à la remorque d'une marquise. Si je vous présentais aujourd'hui, on compterait demain les visites que nous avons faites et l'on calculerait à un centime près la somme que chacune m'a rapportée. Qu'en dites-vous? Puissiez-vous assez jeune pour vouloir jouer à un pareil jeu? Je ne suis pas assez philosophe pour vous servir de partenaire. Je pars demain pour un relâche avec ma femme. Et je vous offre en bon gendre une place dans la voiture. Et c'est tout ce que le sens commun me permet de faire pour vous. » Madame Benoît était violemment tentée d'arracher les yeux à ce modèle des gendres, mais elle cacha son dépit. « Mon ami, dit-elle, vous avez passé 30 heures en chaise de poste. Vous êtes là. Vous avez sommeil. J'ai été mal inspiré de vouloir convertir un homme encore beauté. Vous serez plus accommodant quand vous aurez dormi. Attendez-moi dans ce fauteuil et souffrez que j'aille pourvoir à votre repos. Je suis à vous. » Elle sortit en souriant et courut comme une tempête à la chambre de sa fille. Je ne sais si elle ouvrit la porte ou si elle l'enfonça, tant son entrée fut violente. Elle saisit rudement le bras de Julie, qui dépliait une taie d'oreiller. « Malheureuse ! S'écria-t-elle. Que faites-vous ? Mais, madame, ce que madame m'a dit ? Vous êtes folle ! Vous ne m'avez pas comprise ! Laissez cela et déménagez-moi tous ces bagages. A-t-on jamais vu chose pareille ? Les mâles d'un garçon dans la chambre de ma fille ? Pardon, madame, mais il n'y a pas de mais, et l'on vous pardonnera quand vous aurez obéi. Allez, emportez, emportez ! Mais où, madame ? Où vous voudrez, dans la rue, dans la cour, mais... Non, allez, tenez, dans ma chambre. Madame donne son appartement ? Mais où faudra-t-il faire le lit de madame ? Ici, sur ce divan, dans la chambre de la marquise. Pourquoi faites-vous l'étonner ? Est-ce que la place d'une mère n'est pas auprès de sa fille ? Elle laissa la femme de chambre à sa besogne et à sa surprise, et redescendit en se disant tout bas, « Le marquis n'est venu que pour me braver. Il n'en aura pas la joie. Je vais aller dans le monde à sa barbe. Madame de Malaisie m'y aidera. Nous ferons voir à ce forgeron diablé qu'on peut se passer de lui. Mais il ne faut pas que je laisse séduire ma fille. Il emporterait Arlange et alors, adieu le faubourg. » Au même instant, Pierre demandait la porte et la marquise, ivre d'espérance, sautait légèrement du marchepied dans la maison. Madame Benoît fut au salon avant elle. Elle ne craignait rien tant que la première entrevue, et il importait qu'elle fût là pour arrêter l'expansion de ses jeunes cœurs. Lucile croyait tomber dans les bras de son mari, et ce fut sa mère qui la reçut. « Ah, te voilà donc, chère petite !» lui dit-elle avec sa volubilité ordinaire, et une tendresse plus qu'ordinaire. Comme tu es resté longtemps, oh, je commençais à m'inquiéter. Mon cœur est suspendu à un fil lorsque je te sens pas près de moi. Chère belle, il y a en ce monde qu'une affection désintéressée, l'amour d'une mère pour son enfant. Comment as-tu passé la journée? Te trouves-tu mieux que cet an dernier? Veuillez, monsieur, comme elle est changée, votre conduite lui a fait bien du mal. Elle a besoin des plus grands ménagements. Les émotions violentes lui sont fatales. Votre vue seule la fait pâlir et rougir à la fois. Mais vous-même, mon cher marquis, savez-vous que je ne vous reconnais plus? Vous prétendez que l'air d'Arlange vous est bon. Oh, on ne le dirait pas à vous voir. Vous n'êtes plus ce brillant seigneur d'Outreville qu'on m'a présenté il y a 2 mois. Après tout, il faut faire la part de la fatigue. Pauvre garçon, oui, 100 lieues en poste, tout d'une haleine, c'est de quoi briser un homme plus solide que vous. Heureusement, une bonne nuit va tout réparer. Il y a près ici un excellent lit qui vous attend, dans ma chambre que je vous cède. « Mais, madame, murmura timidement Gaston, pas d'objection et pas de façon avec moi. Sacrifier tout à ses enfants, C'est notre bonheur à nous, autre mère. Dirais-je, je dormirai fort bien sur un lit de camp, près de ma chère Lucille, dont la santé réclame tous mes soins. Nous devrions déjà être couchés. Allons, belle endormie. Dites bonsoir à votre femme et venez lui baiser la main. Il me semble que vous ne lui faites pas trop d'accueil.
Ni Gaston ni Lucille ne furent dupes de ce discours, mais ils en furent victimes. L'impudence réussit presque toujours avec les jeunes gens, parce qu'ils éprouvent une sorte de honte à réfuter un mensonge. Dans la circonstance présente, une autre espèce de délicatesse paralysait le courage de Lucille et de Gaston. Ces cœurs honnêtes auraient cru manquer à la pudeur en affrontant le mauvais vouloir de Madame Benoît. Gaston lui-même, après toutes les vigoureuses résolutions qu'il avait prises, n'osa ni se prévaloir de ses droits, ni faire appel aux sentiments de sa femme. Il fut aussi timide que Lucille, peut-être plus. Quelle que soit la hardiesse que l'on attribue à notre sexe, il n'est pas moins vrai que les hommes bien nés sont en amour plus farouches que les jeunes filles. Il suffit de la présence d'un tiers pour glacer la parole sur leurs lèvres et refouler jusqu'au fond de leur âme une passion qui débordait. Madame Benoît dressa un plan de campagne qui n'aurait jamais réussi sans l'empire qu'elle avait pris sur sa fille et surtout sans la fière timidité de Gaston. Pendant toute une semaine, elle parvint à tenir séparés deux êtres qui s'adoraient, qui s'appartenaient et qui dînaient ensemble tous les soirs. Ce qu'elle dépensa de turbulence pour étourdir sa fille et d'effronterie pour intimider son gendre fait une somme incalculable. Tous les jours, elle imaginait un prétexte nouveau pour entraîner Lucille dans Paris et laisser le marquis à la maison. Elle se cramponnait à sa fille. Elle ne la quittait qu'à bon escient lorsque Gaston était sorti. À voir son zèle et sa persévérance, vous auriez dit une de ces mères jalouses qui ne peuvent se résigner à partager leur fille avec un mari. Sa première idée était simplement de punir son gendre et de lui infliger à son tour les ennuis d'une passion malheureuse. Le succès de ses calculs lui rendit ensuite un peu d'espoir. Elle pensa que Gaston finirait par s'avouer vaincu et offrirait spontanément de la conduire dans le monde. Mais le marquis prenait son veuvage en patience. Il écrivait à Lucille, il en recevait quelques billets écrits à la dérobée. Il combinait avec elle un plan d'évasion. Grâce à la surveillance de Madame Benoît, ces deux époux unis par la loi et par la religion ont été réduits à des stratagèmes d'écoliers. La cérémonie quotidienne du baise-main, autorisée et présidée par la belle-mère, couvrait l'échange de cette correspondance que Madame Benoît ne devina jamais. Lasse enfin d'attendre inutilement la conversion de son gendre, elle revint à ses premiers projets et retourna les yeux vers Madame de Malaisie. Elle avait appris chez sa couturière que la marquise de Croix-Mongard allait donner une fête dans son jardin pour l'anniversaire de son mariage. Toute la noblesse présente à Paris s'y trouverait réunie, car les bals sont rares au 22 juin, et lorsqu'on rencontre l'occasion de danser sous une tente, on en profite. Par une rencontre providentielle, Gaston avait précisément obtenu une audience du ministre pour le 21 à 11h du matin. La veuve profita de l'absence forcée de son gendre pour laisser Lucille au logis. Elle courut chez la vieille comtesse. « Madame, lui dit-elle à brûle-pourpoint, vous me devez 8 000 francs, ou peu s'en faut. « Plaît-il ? » demanda la comtesse, qui entendait rarement de cette oreille-là. « Je ne viens non ni vous les réclamer, ni vous les reprocher. Ah, la bonne heure ! Oh, je tiens si peu à l'argent que non seulement je renonce à cette somme, mais encore je ferai au besoin d'autres sacrifices pour arriver à mon but. Je veux être reçu au faubourg avec la marquise ma fille et sans retard. C'est demain que Madame de Croix-Maugard donne son bal. Vous êtes sa mère, elle n'a rien à vous refuser. Serait-ce abuser des droits que j'ai acquis à votre bienveillance
que de vous demander deux lettres d'invitation ?»
Les petits yeux brillants de la comtesse s'arrondirent en clous de fauteuil. Elle sourit au discours de la veuve comme un mineur à un filon d'or.
« Hélas, petite, dit-elle en larmoyant, on vous a bien exagéré mon crédit. Ma fille est ma fille, oh, n'en discordiez pas, mais elle est en puissance de mari. Connaissez-vous quoi, mon gars ?»«
Bon, non, si je connaissais, je n'aurais pas besoin.
C'est juste, eh bien, cher enfant, il me suffit de lui demander un service pour obtenir un refus. Je suis la plus malheureuse femme de Paris. Mes créanciers s'acharnent contre moi, quoique je ne leur ai jamais rien fait. Mon gendre est un homme. Il devrait me protéger, il m'abandonne. Qu'est-ce que je lui demanderais avant un peu d'argent pour payer le bon Saint-Louis, qui a tant dégénéré depuis notre père? Et il m'a répondu que sa fête serait magnifique, mais que sa bourse était à sec. Je sais lui donner de la tête. Mais comment avez-vous le cœur de venir parler de tel et tel plaisir à une pauvre désespérée comme moi? Oh, tout cela finira mal, je serai saisi, on vendra mes meubles. »
Ici, la comtesse se tut et laissa parler ses larmes.
« Excusez-moi, reprit-elle, vous voyez que je suis en état de recevoir des visites, mais j'aurai toujours du plaisir à vous voir. Vous me rappelez mon beau Lopino, ah, s'il était encore de ce monde. Revenez un de ces jours, nous causerons. Et si j'en suis encore bonne à quelque chose, je m'emploierai à vous servir. »
Aux premières larmes de la comtesse, Madame Benoît avait résolument tiré son mouchoir. Elle se dit, puisqu'il faut pleurer, pleurons. Après tout, les larmes ne coûtent pas plus qu'à elle. Et la sensible veuve ajouta tout haut,
« Voyons, madame la comtesse, un peu de courage. Il n'y a pas de quoi abattre un cœur comme le vôtre. Vous devez donc beaucoup d'argent à ce méchant Saint-Louis ?»«
Hélas, petite, 1500 francs.
Mais c'est une misère.
Oui, c'est une grande misère. »
S'appeler la comtesse de Malaisie, être mère de la marquise de Croix-Maugard, tenir le premier rang dans le faubourg, avoir l'entrée de tous les salons pour soi et ses amis, et ne pas pouvoir payer une somme de 1500 francs. Oh, je vous fais de la peine, n'est-ce pas? Bon, adieu, mon enfant, adieu. Mon chagrin redouble à vous voir pleurer. Laissez-moi seul avec mes ennuis.
Voulez-vous permettre que je passe au bon Saint-Louis? Je me charge d'arranger l'affaire.
Oh, je vous le défends. Ou plutôt aussi, allez-y. Ces gens-là sont vos successeurs, vous vous entendrez avec eux mieux que moi. D'ailleurs, ils sont de votre caste. Les marchands ne se mangent pas entre eux. Vous êtes heureux, vous autres, on vous donne pour 100 sécus que vous en coûte 1000. Allez au bon Saint-Louis. Je parie, fripote, que vous achèterez la créance sans bourse déliée. Et c'est à vous que je donnerai 1500 francs.
C'est dit, madame la comtesse. Et comme un service en vaut un autre.
Oui, oui, je vous rendrai tous les services qui sont en mon pouvoir. Mais décidément, j'aime mieux que vous ne fassiez pas ma paix avec ces boutiquiers. Bon, qu'est-ce que j'y gagnerais? On saurait bientôt qu'ils sont payés, j'aurai affaire à tous les autres. Ma pauvre belle, mais je dois à Dieu et au diable.
Combien?
Non, combien, j'en sais plus rien moi-même. Ma mémoire s'en va, mais j'ai ici des factures. Voyez, le pâtissier de la rue de Poitiers réclame 500 francs pour une demi-douzaine de poulets que j'ai fait monter chez moi, et quelques malheureux gâteaux que j'ai grignotés dans sa boutique. Comme vous nous exploitez!
Bien, je lui dirai deux mots.
Ah, mais dites-lui qu'il devrait avoir honte, que je ne veux plus entendre parler de lui.
Soyez tranquille.
Et voici maintenant Maître Majou qui demande le prix d'une pièce de vin ordinaire.
Bon, c'est une bagatelle, donnez-moi ce papier-là.
1000 francs.
Diantre, votre ordinaire n'est pas à dédaigner.
Tenez, voici la note d'un bien honnête homme. Oh, je suis sûr que vous vous arrangeriez avec lui. C'est le tapissier qui a mis ses meubles à neuf. Il me demande 1000 écus.
Mais si on savait le prendre, on obtient de réquittance pour presque rien.
J'essaierai, madame la comtesse. Et elle prit les quatre factures et les plia soigneusement.
Il est midi, poursuivit-elle. Je vais de ce pas mettre ordre dans vos affaires. Mais maintenant que vous ayez l'esprit le plus libre, n'irez-vous pas essayer l'effet de votre éloquence sur le marquis de Croix-Maugard?
Oui, petite, j'irai. Mais j'ai l'esprit moins vif que vous ne croyez. Je vous ai pas dit tous mes chagrins.
Elle ouvrit un tiroir de sa table à ouvrage et prit un portefeuille bourré de papier.
Vous allez apprendre bien d'autres misères.
Oh, tout beau, pensa madame Benoît. Va pour 6 000 francs, quoique ce soit un bon prix pour une simple passeport à l'intérieur du faubourg. Mais la vieille dame s'est mise en goût, l'appétit lui vient. Et si je dis belle là, elle me priera de lui acheter en passant le Louvre et les Tuileries. La veuve reposa sur la table les factures qu'elle avait prises et dit d'une voix émue.
Hélas, madame, je crains fort que vous n'ayez raison et que vos chagrins ne soient sans remède.
Mais non, répliqua vivement la comtesse. Je suis sûr de me tirer d'un barin un jour ou l'autre. Vous m'avez rendu le courage, je me sens tout ragaillardi. Je serai chez ma fille dans 1 heure, le temps de passer une robe. Et j'aurai une carte d'invitation au nom de la marquise d'Outreville. Il ne vous en faut pas 2. Vous entrerez avec votre fille. Je veux éluder le nom de Benoît, qui gâterait tout. Et pendant que je m'occupe de vous, allez chez vos marchands avec les factures et terminez cette petite spéculation qui a l'air de vous sourire. Rendez-vous ici à 3 heures précises et nous échangerons nos pouvoirs comme 2 ambassadeurs.
Monsieur de Croix-Maugard fit la grimace en voyant entrer sa belle-mère. La comtesse était si terriblement besogneuse qu'on redoutait son apparition comme l'arrivée d'une lettre de change. Mais lorsqu'on sut qu'elle ne demandait pas d'argent, on n'eut plus rien à lui refuser. Le marquis lui remit en souriant un carré de carton satiné dont il était loin de connaître la valeur. C'était la 4e fois depuis 1 an qu'il lui payait ses dettes. Madame Benoît, joyeuse comme un matelot qui rentre au port, courut chez son notaire, revint chez les créanciers et paya sans marchander. Le tapissier accommodant dont la comtesse avait fait l'éloge était ce farouche bougnol qui avait forcé sa porte 8 jours auparavant. À 3 heures, madame de Malaisie empocha les quittances et la veuve courut à son hôtel avec la précieuse invitation. Elle ne la confia point à ses proches. Elle la garda à la main, elle la contempla, elle lui sourit. « Enfin, disait-elle, voici mes lettres de naturalisation. » Je suis citoyenne du faubourg, pourvu que d'ici à demain je ne tombe pas malade. »
Elle se souvint alors que Lucile était seule depuis 11 heures et que le marquis avait eu le temps de l'entretenir en tête à tête. Cette idée, qui l'eût exaspérée la veille, lui parut presque indifférente. Le bonheur la réconcilia avec le monde entier et avec Gaston. Un homme ivre n'a plus d'ennemis. En descendant de voiture, elle aperçut dans la cour une ancienne victime de son comportement, le candide Jacquet.
« Viens ici, bon garçon, lui dit-elle. Approche, ne crains rien, tu es pardonné. Tu veux donc entrer à mon service ?»«
Oh, non, merci bien, madame. Monsieur le marquis m'a présenté dans une maison. »
« Le marquis t'a présenté. Oh, tu as du bonheur, toi. »
« Oui, madame, je gagne 50 francs par mois. »
« Eh bien, je t'en fais mon compliment. C'est tout ce que tu avais à me dire ?»«
Non, madame, je viens vous apporter 2 lettres. »
« Donne donc. »
« Un petit moment, madame, je les cherche sous la coiffe de mon chapeau. Les voilà. »
L'une de ces lettres était de Gaston. L'autre de Lucile. Gaston disait:
Ma charmante mère, dans l'espoir que l'amour maternel vous arrachera de ce Paris que vous aimez trop, j'emmène votre fille à Arlange. Puissiez-vous venir bientôt nous y rejoindre?
Mais qu'est-ce qui t'a donné cela?
Demanda Madame Benoît à Jacquet. Mais Jacquet avait fui comme un oiseau devant l'orage. Elle décacha vivement la lettre de sa fille et trouva trois pages d'excuses qui se terminaient par ces mots. La femme doit suivre son mari. Je ne veux pas médire du cœur humain, mais la veuve, après avoir lu ces deux lettres, ne pensa ni à l'abandon de sa fille, ni à la trahison de son gendre, ni à l'isolement où la laissait, ni à la rupture de tous les liens qui l'attachaient à sa famille. Elle pensa qu'elle venait d'acheter une invitation, que cette invitation était au nom d'Outreville, qu'elle ne pouvait servir à Madame Benoît, et qu'on danserait, sans elle, à l'hôtel de Croix-Mougard.
Chapitre 6. Le marquis d'Outreville, confiant dans son bon droit et sûr de l'amour de Lucile, ne craignait pas d'être poursuivi par sa belle-mère. La fuite des deux époux fut une promenade d'amoureux. On voyageait un peu le matin, un peu le soir, on choisissait les gîtes, on s'arrêtait, comme deux connaisseurs, dans un salon de peinture à tous les frais paysages. On descendait de voiture, on suivait les sentiers, on entrait bras dessous dans les bois. On se perdait souvent, on se retrouvait toujours. Lucile, aussi marquise qu'une femme peut l'être, et reconnue en cette qualité par tous les hôteliers de la route, parcourut en 3 semaines le chemin qu'avec sa mère elle avait dévoré en 24 heures. Cependant, le second voyage lui parut plus court que le premier. L'arrivée des deux époux fut une fête dans Arlange. Lucile était adorée de tous les vaisseaux. Les anciens du pays et les doyens de la forge vinrent lui dire en leur patois qu'ils avaient trouvé le temps long après elle. Les compagnes de son enfant se présentèrent gauchement pour lui apporter le bonjour. Elle les reçut dans ses bras. Elle remboursa largement la bonne grosse monnaie d'amitié que ces braves gens ont dépensée pour elle. Elle s'informa des absents, elle demanda des nouvelles des malades, elle fit rayonner dans tout le village la joie dont son cœur était plein. Ce tribut, une fois payé au souvenir du premier âge, elle comptait se retrancher dans la forge avec Gaston, fermer la porte à toutes les visites et vivre d'amour au fond de sa retraite. Les enfants ont l'imprévoyance de ces sauvages de l'Amérique qui coupent l'arbre par le pied et mangent tous les fruits en un jour. Mais le marquis, depuis son mariage, avait fait des réflexions sérieuses et devint le grand secret de la vie domestique, l'économie du bonheur. Il savait que la solitude à deux, ce rêve des amants, doit épuiser rapidement les cœurs les plus riches, et que si l'on se dit tout en un jour, il faut bientôt se répéter ou se taire. Si tous les jeunes époux n'avaient pas l'habitude de gaspiller leur bonheur, la lune de miel, que l'univers accuse d'être trop courte, aurait plus de 4 quartiers. Gaston se sentait assez de tendresse dans l'âme pour faire durer son bonheur autant que sa vie, mais à condition de le ménager. Il amena doucement Lucile à partager son temps entre l'amour, le travail et même l'ennui, ce voisin salutaire qui ajoute tant de charme au plaisir. Il intéressa à ses études et à ses recherches. Il lui persuada de faire et de recevoir des visites. Il eut l'héroïsme de la conduire chez la baronne de Sommerfogel. Il se joignit à elle pour prier M. et Mme Jordy de venir passer à la forge les premières vacances qu'il pouvait prendre. Il lui dicta 5 ou 6 lettres destinées à adoucir Mme Benoît et à la ramener. Ces marques de soumission filiale ne firent qu'exaspérer le courroux de la veuve. Oh, elle n'était pas loin de se croire offensée par des excuses vaines qui n'avaient pas la vertu de lui ouvrir le moindre salon. Si elle avait dû oublier un instant ce qu'elle appelait la trahison de sa fille,
L'invitation du marquis de Croix-Maugard, qu'elle portait sur elle, la lui aurait remise sous les yeux. Elle devint misanthrope comme tous les esprits faibles lorsqu'ils croient avoir à se plaindre de quelqu'un. Elle prit en haine l'univers entier et même son ancien paradis, le faubourg Saint-Germain. Il lui semblait que l'aristocratie de Paris conspirait contre elle et que le marquis d'Outreville était le chef du complot. Si elle ne disait pas un éternel adieu au théâtre de ses mécomptes, c'était pour ne pas s'avouer vaincue. Elle persistait à frayer avec la noblesse, mais uniquement pour la braver de plus près. Elle voulait fouler le tapis de la rue de Grenelle, comme Diogène foulait aux pieds le luxe de Platon. Elle ne revit ni Madame de Malaisie, ni ses autres débiteurs, excepté le baron de Subressac. Oh, ce n'était pas qu'elle espérât de lui aucun service. Elle s'était croisé les bras et n'attendait plus rien que du hasard. Mais le baron lui témoignait du bon vouloir, et c'est quelque chose, faute de mieux, que l'amitié d'un baron. Monsieur de Subressac était très vieux, à 75 ans. À 25, il avait été particulièrement jeune. Il avait dépensé, sans compter, sa vie et sa fortune, et ses aventures d'autrefois défrayaient encore les conversations intimes des douairières du faubourg. Malheureusement pour sa vieillesse, il avait oublié de se marier à temps et il s'était condamné à la solitude, cette froide compagne des vieux garçons. Relégué à un quatrième étage avec 6 000 livres de rente viagère, entre un valet de chambre et une cuisinière qui le servait par habitude, il haïssait le logis et vivait dehors. Tous les jours après déjeuner, il faisait sa toilette avec la coquetterie minutieuse d'une femme qui prend de l'âge. On a prétendu qu'il mettait du rouge, mais le fait ne paraît pas bien avéré. Une fois habillé, il faisait à petits pas 5 ou 6 visites, bien reçu partout, et invité à dîner 7 fois par semaine. On l'aimait pour le soin qu'il prenait de lui-même et des autres. Il avait pour les femmes de tout âge des attentions exquises que la jeune génération ne connaît plus. Indépendamment de ce même rite, le sage sexe récompensait en lui 30 années de loyaux services, comme un souverain donne les invalides aux soldats vieillis sous le harnois. Je ne parle pas de 5 ou 6 aïeuls vénérables chez lesquels il trouvait cette amitié plus étroite, qui est comme de l'amour cristallisé. Grâce au bon sentiment qu'il avait semé sur sa route, il était aussi heureux qu'on peut l'être à 75 ans, lorsqu'on est forcé d'aller chercher le bonheur hors de chez soi. Il n'avait pas d'infirmité, mais dès l'hiver de 1845, ses amis les plus intimes commencèrent à s'apercevoir qu'il baissait. Il n'était pas aussi éloigné de la conversation. Il avait des absences. Sa parole semblait moins vive et sa langue moins déliée. Enfin, symptôme plus grave, il ne savait plus résister au sommeil. Un soir, après dîner chez le marquis de Croix-Maugard, il s'endormit sur sa chaise. Madame de Malaisie, un de ses caprices de 1815, s'en aperçut la première et cita à ce propos un dicton menaçant. « Jeunesse qui veille, vieillesse qui dort, présage de mort. » En avril 1846, le baron fut pris d'un étourdissement devant la caserne de la rue Bellechasse. Il serait tombé sur le pavé sans un brigadier de chasseurs qui le retint dans ses bras. Cette circonstance lui fit vivement sentir le regret d'une voiture. On était toujours heureux de recevoir ses visites, mais on ne le faisait pas prendre chez lui. Et Madame Benoît fut la première qui eut pour lui des soins si délicats. Soit qu'elle l'attendît, soit qu'il prit congé d'elle, elle n'oubliait jamais de mettre à sa disposition la plus douce de ses voitures et les coussins les plus moelleux. Elle se montra plus attentive que les vieilles amies, et n'en soyez point étonnés, il était pour elle une espérance, pour les autres un souvenir. Le jour où elle n'attendit plus rien de lui, après le départ de Lucille, elle ne diminua rien de ses intentions, bien au contraire. Elle éprouvait un plaisir amer à combler le seul gentilhomme qui fût de ses amis. Elle disait en elle-même, « Mes imbéciles, voilà pourtant comme je les aurais choyés tous. » Le baron se prit d'une amitié véritable pour celle qui le traitait si bien. Les vieillards sont comme les enfants. Ils s'attachent par instinct à ceux qui prennent soin de leur faiblesse. Il la fit profiter des loisirs que la saison lui laissait, pendant qu'une grande moitié du faubourg courait à la campagne pour se reposer des plaisirs de l'hiver. Il prit ses quartiers dans la rue Saint-Dominique et vint presque tous les jours dîner en bourgeoisie. Le repas était commandé pour lui. On lui servait les plats qu'il aimait. Il mangeait lentement. Madame Benoît prit exemple sur lui pour n'avoir pas l'air de l'attendre. Il aimait les vieux vins, elle lui servit la crème de sa cave. Au dessert, elle lui contait ses doléances et il l'écoutait. Il en vint à la plaindre sérieusement de ses maux imaginaires. Elle pleurait, et comme les larmes sont contagieuses, il pleurait avec elle. 3 mois après le départ de Lucille, il était de la maison. Il s'était accoquiné à cette vie facile et grasse et à ses plaisirs tranquilles qui ne lui coûtaient qu'un peu de compassion. Un soir, ou c'était vers la fin de septembre, il dit à Madame Benoît, « Je ne suis plus bon à rien, ma pauvre charmante. Je ressemble à une vieille tapisserie qui monte partout la corde et dont le dessin est de 2 ou 3 quarts effacé. Mais tel que je suis, je peux encore vous donner ce que vous avez souhaité toute la vie. Voulez-vous être baronne? Oh, ce n'est pas un mari que je vous propose, ce n'est qu'un nom. À votre âge, et faites comme vous voilà, vous mériteriez mieux, mais j'offre ce que j'ai. Quelque chose me dit que je ne vous ennuierai pas longtemps et que ma vieillesse sera bientôt finie. Je crois même que nous ferons bien de nous hâter si vous voulez devenir madame de Subressac. J'ai beaucoup de relations dans le faubourg, on m'aime un peu partout, et que j'ai seulement le temps de vous présenter à mes amis. Après ma mort, il continuera à vous recevoir pour l'amour de moi. Alors rien ne vous empêchera, si le cœur vous en dit, de choisir un homme de votre âge, qui sera votre mari en vérité, non plus en effigie. Méditez cette proposition. Prenez 8 jours pour réfléchir, prenez-en 15. Je suis encore bon pour 15 jours. Écrivez à vos enfants. Peut-être la crainte de ce mariage décidera-t-il à faire ce que vous voulez. Pour moi, quoi qu'il arrive, je mourrai plus tranquille. Si j'ai la consolation d'avoir contribué à votre bonheur. Madame Benoît n'était nullement préparée à ces ouvertures. Cependant, elle ne perdit pas 2 jours à réflexion. 1 heure après le départ du baron, son parti était pris. Elle se dit, « J'ai juré que je ne me remarierai pas, mais auparavant j'avais juré d'entrer au faubourg. Cette fois, du moins, je suis sûr d'être point battu par mon mari. J'épouse le baron, je dénature ma fortune, et je déréside la marquise de tout ce qu'il me sera possible de lui enlever à l'ouvrage. » Elle fit porter sa réponse à M. de Subressac, et dès le lendemain, sans écrire à ses enfants, elle hâta les apprêts de son mariage. Jamais amant passionné ne courut plus ardemment à ses noces. C'est que Madame Benoît épousait bien mieux qu'un homme. Elle épousait le faubourg. Une légère indisposition de M. de Subressac l'avertit qu'elle n'avait pas de temps à perdre. Elle prit des ailes et déploya plus d'activité qu'aux approches du mariage de sa fille. Et tandis que le baron était retenu dans la chambre, la fiancée courait de la mairie à l'étude du notaire et de l'étude à la sacristie. Elle trouvait encore le temps de voir son cher malade et de causer avec le médecin. La cérémonie était fixée au 15 octobre. Le 14, M. de Subressac, qui était mieux, se plaignit d'une pesanteur à la tête. Le docteur parla de le saigner. Madame Benoît le fit taire. La saignée fut remise au lendemain. Le mal de tête se dissipa, les futurs époux dînèrent ensemble de bon appétit. Le mois d'octobre fut charmant en 1846. On se serait cru au premier jour de septembre. Et le soleil donnait au calendrier un éclat démenti. Les vendanges furent belles dans toute la France, et même en Lorraine. Tandis que Madame Benoît poursuivait ardemment sa baronnie, sa fille et son gendre jouissaient de l'automne dans la compagnie de leurs amis. Monsieur et Madame Jordy avaient quitté leurs affaires pour venir passer 3 semaines à Arlange. Madame Méfier les garda 8 jours et leur permit ensuite d'habiter la forge. Une étroite amitié s'est établie entre le raffineur et le forgeron. Ils chassaient tous les jours ensemble, tandis que leur femme cousait une layette de prince. Robert appelait la marquise Lucille et Gaston disait Céline à Madame Jordy. Le jour même où le marquis devait gagner un beau-père et perdre une fortune, les deux couples, éveillés au petit jour, s'embarquèrent ensemble dans un char à bancs solide, à l'épreuve de toutes les ornières de la forêt. La rosée en grosses gouttes étincelait dans les herbes. Les feuilles jaunies descendaient en tournoyant dans l'air et venaient se coucher au pied des arbres. Les rouges-gorges familiers suivaient de branche en branche la course de la voiture. La bergeronnette courait en hochant la queue, jusque sous les pieds des chevaux. De temps en temps, un lapin effarouché, les oreilles couchées en arrière, passait comme un éclair au travers de la route. L'air piquant du matin colorait le visage des jeunes femmes. Je ne sais rien de charmant comme ces frissons de l'automne entre les chaleurs accablantes de l'été et les glaces brutales de l'hiver. Le chaud nous énerve, le froid nous raidit, et le doux fraîcheur raffermit les ressorts du corps et de l'esprit, stimule notre activité et redouble le bonheur de vivre. Après une longue promenade, qui ne parut longue à personne, les 4 amis descendirent de voiture. Lucille, qui commandait l'expédition, les conduisit à une belle place verte, sous un grand chêne auprès d'une petite source encadrée de cressons. Madame Jordy s'établit commodément sur l'herbe des bois, plus fine et plus moelleuse que les meilleures fourrures, tandis que son mari vidait les coffres du char à banc et que le marquis allumait un grand feu pour le déjeuner. Lucille y jetait des brassées de feuilles sèches et des poignées de branches mortes. Puis Robert découpa les perdreaux froids et la marquise employa tous ses talents à faire une magnifique omelette. Puis on mit le café auprès du feu, à distance respectueuse, en recommandant au marquis de ne pas le laisser cuire. Alors commença une de ces tournois d'appétit qui seraient ridicules à la ville et qui sont délicieux à la campagne. Et lorsqu'un gland tombait dans un verre, on riait à tout rompre, et l'on trouvait que le vieux chêne avait beaucoup d'esprit. Il n'était pas loin de midi lorsqu'on livra la table au laquais et au cocher. Les deux jeunes femmes prirent un sentier qu'elles connaissaient de longue date, marchèrent d'un pas gaillard jusqu'à la lisière du bois, et jetèrent leurs mains en pleine vendange dans les vignes de Madame Métier. Un doux soleil éclairait les feuilles pourpres de la vigne. Les cèpes robustes enfonçaient dans le sol leurs racines noueuses comme un enfant vigoureux se cramponne au sein de sa nourrice. La belle terre rouge, légèrement détrempée par l'automne, s'attachait aux pieds des vendangeurs et chacun d'eux emportait un petit arpent à sa chaussure. 2 chariots chargés de larges cuves attendaient au bas du coteau et d'instant en instant, un vigneron, courbé sous le poids, venait y verser sa haute plaine. Un peu plus loin, 2 bambins de 6 ans surveillaient d'un air affamé le repas des vendanges. Une énorme soupe aux choux lançait en bouillonnant ses vapeurs succulentes, les pommes de terre cuisaient sous la cendre et le lait caillé attendait son tour dans les jarres de grès bleu. Le regard des deux enfants disait avec une certaine éloquence oh, des pommes de terre bien chaudes avec du lait caillé bien froid. Les vendangeuses en jupon court chantaient du haut de leur tête une poésie champêtre. Cette bruyante gaieté profite au maître de la vigne, bouche qui mord à leur chanson ne mord pas à la grappe. Le même jour, Madame Benoît monta à 10 heures du matin dans le célèbre carrosse qu'on venait enfin de terminer, mais en changeant les armes. Avant de gravir l'escalier de velours qui servait de marchepied, elle lorgna complaisamment le tortil du baron et l'écusson des supresacs. Contrairement à l'usage, c'était la mariée qui allait chercher son mari. Elle monta d'un pas léger jusqu'au 4e étage, sonna vivement et se trouva face à face avec 2 serviteurs en larmes. Le baron était mort subitement pendant la nuit. La pauvre mariée éprouva la douleur foudroyante de Calypso lorsqu'elle apprit le départ d'Ulysse. Elle voulut voir ce qui restait du baron. Elle toucha sa main froide. Elle s'assit auprès de son lit, accablée, stupide et sans larmes. En voyant ce désespoir, le vieux valet de chambre, qui savait la liste des amours de son maître, se dit que personne ne l'avait aimé comme Madame Benoît. Ce fut Madame Benoît qui poursuivit aux funérailles du baron. Elle assura l'avenir de ses vieux domestiques en disant « Il m'appartient de payer ses dettes. Ne suis-je pas sa veuve aux yeux de Dieu ?» Elle résolut de porter son deuil. Elle suivit le convoi jusqu'au cimetière. Tout le faubourg y était. Lorsqu'elle vit la longue file de voitures qui s'avançait au pas derrière la sienne, elle fondit en larmes et s'écria au milieu des sanglots « Que je suis malheureuse ! Tous ces gens-là seraient venus danser chez moi !» Comme elle rentrait à l'hôtel, écrasée sous le poids de la douleur, on lui remit la lettre suivante. « Chère maman, voici la 6e lettre que je vous écris sans obtenir 2 lignes de réponse. Mais pour cette fois, je suis sûr du succès. Je ne vous répéterai pas que nous nous aimons, que nous regrettons de vous avoir fait de la peine, que vous nous manquez, que nous commençons à allumer du feu le soir, et que votre fauteuil vide nous met les larmes aux yeux. Vous avez résisté à toutes ces bonnes raisons-là. Il faut des arguments plus victorieux pour vous décider. Écoutez donc. Si vous voulez être bonne et revenir auprès de nous, je vous donnerai pour récompense un petit-fils. Oh, je n'essaie pas de vous dépeindre notre joie. Il vaut mieux que vous veniez la voir et la partager. Lucile d'Outreville. Oh, oui, da! S'écria Madame Benoît, un petit-fils, et si c'était une petite fille? Elle courut à la cheminée et poursuivit en se mirant dans une glace. Oh, j'ai 42 ans dans 16 ans. Ma petite fille fera son entrée dans le monde. Ses parents ne sortiront jamais dans l'ange. Qu'est-ce qui la conduira au faubourg, si ce n'est moi? Chère petite, mais je l'aime déjà. J'aurai 58 ans, je serai encore jeune, et d'ici là je ne ferai pas la sottise de me laisser mourir comme certains vieux maladroits. Eh bien, allez, en route pour Arlange. Madame, interrompit Julie, on vient de l'arrêt d'Artémise avec des étoffes de deuil. Non, renvoyez-moi ces choses, gens-là. Est-ce qu'on se moque de moi? Le baron ne m'était rien, et je ne veux pas étaler des regrets ridicules. « Mais madame, c'est madame qui a dit... »« Mademoiselle Julie, quand votre maîtresse vous parle, il ne vous appartient pas de dire « mais ».»« Oui, parce que j'ai supporté vos défauts pendant 15 ans, vous avez peut-être cru que j'étais engagé avec vous pour la vie. »« C'est comme maître Pierre, votre fidèle ami, qui suit vos bons exemples et n'en veut faire qu'à sa tête. »« Vous me servez passablement mal. »« Et ce qui est beaucoup plus grave, il vous est arrivé à tous deux... » de manquer grossièrement à madame la marquise d'Outreville. Alors ne venez pas encore objecter que c'est moi qui avais dit. Le fait est que ma fille ne peut plus vous voir, ni l'un ni l'autre. Et comme je retourne à Arlange. Ah, je comprends. Madame nous punit de lui avoir obéi.
C'est ainsi que madame Benoît congédia ses alliés avant la signature de la paix. 2 jours plus tard, son sourire éclairait Arlange. Elle ne parla point du passé. Elle s'abstint de toute récrimination. Elle se réconcilia franchement avec sa fille et son gendre. Peu s'en fallut qu'elle ne convainc ses torts.
« Mes enfants, dit-elle, que vous êtes bien ici. Restez-y longtemps, restez-y toujours. Gaston avait bien raison de faire l'éloge de la campagne. C'est moi qui doterai vos filles. Ainsi, ma Lucette, règle-toi là-dessus. Mais comprenez-vous cet engouement qu'ils ont pour Paris? Mais c'est une ville abominable. Je n'y ai trouvé que déboire. Oh, je n'y remettrai jamais les pieds que pour conduire mes petits-enfants dans le monde. »
10 années viennent de s'écouler. Gaston, fidèle aux 2 passions de sa jeunesse, consacre la meilleure partie de son temps à Lucile et le reste à la science. Son usine prospère aussi bien que son ménage. Il a poussé vigoureusement les progrès de l'industrie métallurgique. Il a précipité la baisse des fers. Grâce à lui, la tonne d'érail est tombée de 360 francs à 285. Et il ne dessert pas de l'amener à 200, comme il le promet déjà 10 à son ami l'ingénieur des Salines. C'est d'ailleurs un beau forgeron que le marquis d'Outreville. Et vous ne lui donneriez pas plus de 30 ans. Oh, les années ont si peu de prise sur l'homme heureux. Mais madame Benoît est une petite vieille femme, fondue, amaigrie, ridée, maussade, insupportable aux autres et à elle-même. C'est qu'elle a attendu vainement la petite tête blonde sur laquelle elle fondait ses dernières espérances. Les 7 enfants du marquis sont 7 garnements joufflus qui se roulent du matin au soir dans la poussière, qui trouent leurs vestes au cou et leurs pantalons aux genoux, qui ont des engelures l'hiver et les mains rouges en toute saison, et qui iront tout seuls au faubourg Saint-Germain, s'ils n'ont jamais la curiosité de voir le paradis de leur grand-mère. Gabriel, Auguste, Eliane mourra comme Moïse sur le mont Nebo, sans avoir mis la pied sur la terre promise.